pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tu mets pas de fête à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes et y'a du baston dans la tour. Mec, ça va saigner. Où les mains qui disent sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous êtes bien à l'écoute de l'Envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. L'Envolée, c'est quoi ? C'est une émission de radio et un journal qui essaye de se faire le porte-voix des personnes enfermées et de leurs proches et qui essaye de se battre contre tous les lieux d'enfermement, que ce soit les prisons, les centres de rétention administrative et les HP. Et donc aujourd'hui, on est beaucoup. Il y a Rose.
Salut.
Il y a Deuge.
Salut.
Il y a Serge.
Salut tout le monde.
Il y a Inès au bocal.
Salut.
Et Louise qui vous salue. Du coup, je vais commencer déjà par rappeler les contacts. Donc, pour nous appeler toute la semaine, c'est au 07 53 10 31 95. Pour nous appeler pendant l'émission en direct, c'est au 01 40 05 06 10. Vous pouvez nous écrire par lettre à fpp-l'envolée 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris, nous contacter par mail à contact@l'envolée.net et aussi nous contacter sur les réseaux, donc Twitter et Instagram. Et donc du coup ce soir à l'émission, on va commencer comme d'habitude par vous lire des lettres, donc on va vous lire deux lettres, une lettre de Vivi et une lettre de Pascal. Ensuite, on vous lira un communiqué de solidarité kanaki qui revient sur la situation des déportés kanaks qui ont été brutalement déportés en métropole à 23 000 km de leur famille et de leurs proches. Et ensuite, on finira par un petit bordel en fonction de ce qu'on arrive à dire, mais que, vu qu'en ce moment tout le monde gueule contre les juges rouges et comme quoi c'est vraiment grave des gauchistes puisqu'ils s'attaquent à Le Pen, on essaiera quand même de remettre ça en rapport avec le fait qu'il y a une grosse offensive sécuritaire de Darmanin et de ses potes en ce moment qui, truc aboutisse, va surtout faire qu'il y a beaucoup plus de gens en tôle dans des conditions toujours pires.
Ça va être fun.
Ça va être trop bien. Voilà, et Tu voulais dire un truc ?
Non, bah on commence avec la première lettre de Vivi.
Ouais, et donc c'est une lettre qui nous vient de la prison des Baumettes. Coucou, je vous remercie énormément de tout le soutien. Croyez-moi qu'il y a de quoi dire et à dénoncer. C'est de pire en pire. Sur le médical, j'ai donné à mon avocat des attestations avec l'accord des détenus. J'ai aussi dû dire à mon avocat, j'ai aussi ma co, ça c'est grave, c'est non-assistance à personne en danger. J'ai dû la veiller toutes les nuits pour éviter un drame. Et personne n'est intervenu alors qu'elle avait pris de nombreux médicaments. J'ai noté tout ce qu'elle a pris et tout donné à mon avocat. Et je vais faire monter à l'ordre de la médecine générale. Déjà, au quartier arrivant, aucune télé ne fonctionne. Donc imaginez, pour celles qui n'ont jamais été en prison, ce qu'on appelle le choc carcéral. Sans télé, sans radio, sans heure, perdu dans le temps. Une handicapée en fauteuil roulant du 19 février 2025 jusqu'au 11 mars 2025. Sans télé, sans radio, sans heure, et pire, rien n'est expliqué. Dès mon arrivée, je leur ai fait savoir qui sont les défenseurs des droits des détenus. Direct, j'ai fait appel collectif. Pas de télé, sans information. Ils vous disent qu'ils sont tous sur les livrets d'accueil, foutage de gueule. Tous les ateliers, travail, faire les cantines, comment savoir leur pécule, tous les mots, et que des mots. Énormément de malaise et des plombes à intervenir, c'est de pire en pire aux arrivants. Et informer les familles, ça va être mon premier combat, avec vous l'équipe. C'est une honte, demander un certificat médical pour avoir un balai à une handicapée. C'est une honte, mais là, beaucoup de filles m'ont fait parvenir des attestations, et on remet aux avocats, et ça lui fait de nombreuses clientes. Tant mieux pour mon avocat. Quand je lui ai remis tout ce que ma co avait pris, et que dans la nuit du lundi 10 mars, personne n'est intervenu, et plusieurs nuits blanches avec toutes ces douleurs, rage de dents, hémorroïdes, crise d'épilepsie, mélange de tétanie et angoisse. Évident qu'on prend pas son cas au sérieux, elle sonne et on lui répond, selon le sérieux des surveillants, alors qu'elle veut mettre fin à ses jours. Mais c'est très épuisant, donc là j'ai dit à mon avocat d'informer ses proches de tout ce qu'elle avait pris et que personne n'est venu. J'espère qu'elle va pas avoir de séquelles car elle a été opérée du foie à un tube et impossible de la faire vomir, et là, bourrée de médicaments, avec des douleurs en plus. Croyez-moi que je vais observer et dénoncer, c'est de pire en pire, une pharmacie ambulante. Une arrivante s'est fait frapper à plusieurs contre elle, elle a reçu des coups de poing, coups de pied, tête et visage, et une dizaine sont tombés dessus. Donc je veux aussi parler à l'équipe de l'envoler et dénoncer, car c'est une jeune de moins de 20 ans qui a été passée à tabac à plusieurs. C'est une honte de voir que ça... Pardon. Voilà, et vraiment, je vais aider votre équipe de l'envoler, j'ai d'autres infos que je vous donnerai et vous montrerai. Bon, en tout cas, je vous remercie toutes et tous, l'équipe qui se bat pour la même cause, et là, faudra, comme j'ai dit à mon avocat, dire les noms, les dénoncer à notre ministre de la Justice, qui va encore avoir d'autres dénonciations, le Darmanin. Les familles sont prêtes à dire aussi, et les détenus vont et font faire des attestations, donc on va bien dire et dénoncer. Allez, merci pour tout votre soutien, Vivi.
Bah, merci beaucoup. Il y a vraiment énormément de choses là-dedans. Peut-être commencer par dérouler sur les violences médicales, en fait. Voilà. Pour rappeler que normalement, en cellule, on t'interdit d'avoir des médocs et tout ça, et ce qu'entraîne toujours des merdes absolument pas possibles pour les gens à l'intérieur pour se soigner, quoi, et dans lesquels on fait absolument pas confiance, quoi. Et donc ça, en fait, ça a des conséquences dans le quotidien hyper chiantes. Mais sauf qu'en fait, des médocs, tu peux toujours en fait en dissimuler si t'as des objectifs autres ou quoi. Mais par contre, tu vas pouvoir te faire réprimer à cause de ça, quoi. Si en cellule, on va te retrouver avec plusieurs médocs que normalement tu dois pas avoir. Tu vas pouvoir te faire réprimer. Donc, bien sûr, quand tu vas juste être sur des questions de soins et tout ça, c'est pas un risque que tu vas prendre, mais ce qui va donc entraîner une galère de ouf dans ton quotidien, parce que il y a les moments où il y a les ruptures de stock et tout ça, il y a le moment où en fait t'étais en promenade puis c'était à ce moment-là qu'il passait, enfin bon, tous les trucs qu'on peut s'imaginer sur comment ça se passe et tout, et voilà. Donc ça, c'est un truc assez quotidien sur le fonctionnement de la tôle. Et après, derrière, il y a tout ce qui est l'aspect tentative de suicide, enfin voilà. Et comment, en fait, les matons ne réagissent jamais. Et tout.
Et puis surtout, c'est toi qui dois t'occuper de ta co qui globalement... a envie de se suicider, et que du coup, en fait, c'est vers sa co qu'elle va chercher de l'aide et tout, et que les matons, ils n'arrivent pas. Et en fait, littéralement, enfin, ils laissent des gens en danger dans leur cellule. Et moi, ça m'a fait repenser en lisant la lettre, l'histoire de Mehdi Berwesh, où les matons, ils mettent 40 minutes à appeler les secours. Quand quand là, enfin et genre il, globalement il meurt parce que il y a enfin 40 minutes c'est super long quand enfin voilà il s'est fait poignarder par son co et du coup c'est enfin ça fait penser à ce genre d'histoire aussi quoi et en fait que bah voilà il te laisse crever dans ta cellule quoi et en fait elle y a sa co donc en fait elle a de la chance qu'il y ait sa co mais voilà il y a personne bah en vrai
ouais, bah en vrai en fait c'est quasiment toujours l'écho qui aide les autres prisonnières quand il y a soit des tentatives de suicide soit des problèmes de santé et on avait eu beaucoup de lettres qui parlaient de ça bah notamment venant des Baumettes en fait il y avait aussi eu le témoignage de Nine qui racontait comment c'était elle qui avait plusieurs fois pendant son temps en prison sauvé ses co-détenus par exemple diabétiques ou qui faisaient des crises ou quoi.
Et sur la gestion des personnes suicidaires, enfin l'administration pénitentiaire en fait délègue toujours en fait aux prisonniers. Donc il y a régulièrement des tracts de matons qui disent oh là là, nous sommes traumatisés parce que quelqu'un s'est suicidé à l'intérieur d'une cellule et tout quoi. Donc ce qui, enfin alors qu'on connaît généralement toutes les morts suspectes qu'il peut y avoir régulièrement cachées sous forme de suicide. Et aussi, en fait, c'est vraiment institutionnalisé, quoi, avec le co-détenu de soutien, voilà, qui va être une personne qui va espérer avoir des remises de peine supplémentaires contre le fait de récupérer, la charge morale de s'occuper d'une personne qui est suicidaire, quoi. Donc l'administration pénitentiaire produit des envies suicidaires, quoi, par l'enfermement et tout. Et après, derrière, va déléguer aux personnes à l'intérieur qui ont un peu plus les épaules et tout ça. Je veux pas dire que les gens sont faibles quand ils ont envie de se suicider, parce que c'est vraiment pas le cas. Enfin, en tout cas, des gens qui. Ça va mieux, tout simplement. Et donc à ce moment-là, c'est jamais les matons qui produisent ça qui vont devoir le gérer, quoi. Et donc, c'est vraiment le fonctionnement même de la paix là-dessus.
Et que leur réponse au suicide, en fait, elle est genre très très souvent répressive, parce qu'on avait aussi pas mal parlé des cellules anti-suicide, où c'est genre, je sais pas, un espèce de mitard où t'es pas censé pouvoir te fumer, quoi. Genre la télé sous un espèce de truc en plexiglas, il y a aucun endroit où tu peux genre... Enfin, il y a aucun angle ou quoi sur lequel tu puisses te faire mal, t'es pas censé pouvoir te pendre et tout. Et en fait, ils utilisent ça comme un truc disciplinaire, comme une punition. On avait lu des lettres où, en fait, bah, des prisonniers qui râlaient contre ce qu'ils subissaient étaient menacés de cellules anti-suicide et pas forcément directement de mitard. Et puis, on avait aussi raconté, enfin, mentionné l'histoire du prisonnier qui fait une tentative de suicide et du coup, on l'envoie au mitard, où en fait, il a beaucoup plus de chances, hein, statistiquement, de se suicider pour le punir d'avoir fait ça, quoi, parce qu'en fait, ça fait juste chier la paix, quoi.
Donc, enfin, ouais, c'est vraiment des fonctionnements, enfin, normal de la détention. Et c'est bizarre de parler de normalité là-dessus, parce que c'est quand même vraiment abject, quoi. Peut-être d'autres trucs sur en fait le quotidien qui pourrait à l'extérieur sembler complètement banal, enfin aberrant, pardon, mais qui est en fait complètement banal à l'intérieur. C'est l'interdiction d'avoir des balais. Alors, c'est un truc, tout ça. Quand t'es à l'extérieur, tu te dis, un balai, quoi. Voilà. Et bah si, parce qu'avec un balai,
tu peux taper les matons.
Tu peux taper les matons. Voilà. Et donc, quand tu veux faire ton ménage en cellule et tout, en fait, t'as qu'une balayette. Et donc, tu te retrouves, en fait, à genoux, à devoir faire tout ton ménage, tout ça. Enfin bon, c'est la galère que... Vous savez, c'est quoi une balayette, quoi, en fait. Je vais pas commencer à expliquer.
Un balai, ouais.
Alors, comment fait-on le ménage avec une balayette non, mais en fait, c'est un vrai bail, quoi. Voilà. Et donc...
bah, c'est des grosses galères pour obtenir un balai. Enfin, il faut un certificat médical. Et en fait, on sait aussi, de toute façon, que même avec un certificat médical, ils vont faire galérer pour l'avoir en fonction d'à quel point ils veulent te faire chier. Et ça peut sembler pas grand chose, mais quand t'as des gros problèmes de dos ou des gros problèmes de santé de tout genre et que tu dois être à quatre pattes pour nettoyer ta cellule, c'est quand même chaud, quoi.
Oui, puis là, ce qu'ils montrent, c'est que là où c'est des chiens, c'est qu'en fait, il faut quand même un certificat médical pour une meuf tétraplégique. Enfin, il n'y a pas de dérogation à la règle, quoi. Ils vont pas lui filer un balai alors qu'elle peut pas. Enfin, elle est tétraplégique. Ouais, c'est ça qu'elle raconte dans la lettre, quoi. Et donc, c'est là où. Bref.
Mais ça devrait. Enfin, voilà. Enfin, ça devrait pas être interdit, les balais à l'intérieur de la détention, enfin voilà, donc ça fait quand même partie des trucs. Après, les autres choses dont parler, c'est notamment les arrivants, quoi, et tout ce qui est, c'est souvent un moment assez, c'est un moment assez important pour plein de raisons. Ça va être le moment en fait où l'administration pénitentiaire elle va un peu t'ausculter quoi, pour regarder qui t'es, comment tu réagis et tout ça, pour savoir avec qui est-ce qu'elle va te placer en cellule. Et voilà. Et puis aussi pour très rapidement te faire comprendre les règles si t'as pas compris quoi. Et c'est Gaëtan qui nous racontait ça. Quand il était sorti de Fleury, que quand il arrivait aux arrivants, en fait, les petits qui se laissaient pas marcher dessus, ils se faisaient très rapidement défoncer la gueule par les matons à l'intérieur pour que bah ils comprennent bien qui était le chef à l'intérieur quoi, et qui étaient les violents quoi. Donc c'est toujours des moments ultra violents, surtout quand tu te retrouves en plus quand tu te retrouves en détention provisoire et tout, où en fait tu rentres mais tu sais même pas quand il va y avoir la date de ton procès, tu sais pas, enfin voilà, donc il y a vraiment un truc en plus où tu sais quand est-ce que tu rentres mais t'as pas du tout de perspective sur quel va être l'avenir et tout ça, et voilà, donc ça va être un truc un peu intense.
Et puis c'est aussi le moment où t'as pas encore de contact avec tes proches parce qu'ils te balancent à l'intérieur, en fait t'as pas encore d'affaires, personne a encore pu t'emmener de linge, bah si... En fait, ta famille, elle a peut-être pas encore ton numéro d'écrou pour t'écrire. Et puis, de toute façon, ça prend du temps. Tu peux pas avoir tes cantines. En fait, je sais plus combien de temps ça dure parce que ça change de prison en prison. Mais des fois, il faut plusieurs semaines avant de recevoir la première cantine. Et si tu as envie de, je sais pas, de mettre des numéros sur la cabine et tout, tu n'as pas ça non plus. Donc, en fait, tu passes plusieurs jours, parfois jusqu'à deux semaines, je crois, ou plus. Où tu n'as aucun contact avec l'extérieur.
Et tu es complètement dans les mains des matons pour tout. Si, par exemple, tu fumes. Et ben en fait c'est les matons qui décident d'absolument tout à ce moment-là, et en plus t'es pas en contact avec la détention de manière générale, sur lequel il va pouvoir y avoir un peu de solidarité et tout, de se filer des clopes, le bail classique quoi. Et donc là t'es vraiment complètement aux mains de l'administration pénitentiaire, en fonction des tôles en plus. Tu vas avoir une durée plus ou moins longue où tu vas pouvoir ramener des habits et tout, mais au bout d'une certaine limite, si t'as pas de parlu, on va t'interdire de ramener des habits, enfin voilà, il va y avoir pas mal de choses. Quand t'apprends qu'une personne a été incarcérée au bout de deux semaines, après derrière tu vas être hors limite, tout ça, et voilà. Et donc c'est toujours un moment dans lequel t'es vraiment complètement en fait tu te retrouves que avec les matons, t'es pas complètement à l'isolement t'es quand même dans un moment particulièrement isolé à l'intérieur de la détention, en plus du truc inquiétant qui est le moment où tu rentres à l'intérieur et tout quoi. Et c'est sûr que ce bail de pas mettre de télé et tout ça, en fait on voit très très bien c'est quoi la logique qu'il y a derrière et pour comment ils raisonnent le truc. C'est que la télé, ne l'oublions pas, elle est payante à l'intérieur, que quand t'arrives chez les arrivants, en fait t'as pas d'argent, tu peux pas filer et tout ça, donc normalement t'as au moins la télé pendant ces 10 jours chez les arrivants et tout ça, mais donc ils doivent dire non, ça nous coûte trop cher, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête et tout ça, mais donc voilà. Et aussi souvent normalement, enfin j'imagine que ça change particulièrement en ce moment où il y a vraiment beaucoup de plus en plus de surenfermement, mais t'es aussi généralement seul en cellule. Tu te fais incarcérer, t'as même plus la télé, j'imagine qu'il n'y a pas de radio. Donc c'est quand même vraiment ouf. Enfin, t'as rien, tu peux rien faire quoi. T'es vraiment enfermé dans ta cellule, à rien faire, t'as pas d'affaires, t'as rien. Enfin...
Puis ce truc de pas avoir l'heure, en fait, ça pourrait sembler non plus pas un truc de ouf, mais en fait c'est un truc de ouf de rester enfermé dans un endroit sans jamais savoir quelle heure il est, sans pouvoir vérifier ce truc-là quoi.
Bah pour ceux qui sont allés en garde à vue, enfin c'est la même chose, enfin c'est utilisé en garde à vue qui est ensuite. Et moi je voulais juste revenir sur le fait que, enfin je pense sur ce que tu disais Serge, sur le, enfin en fait je pense comme tous les endroits où les matons, enfin leur rôle c'est vraiment, enfin où ils peuvent faire vraiment ce qu'ils veulent et genre un peu comme au mitard et tout, aux arrivants, enfin en gros. Enfin, tu racontais genre le fait qu'ils défoncent des prisonniers et tout régulièrement. Enfin, je suis désolée, c'est moi. Enfin, mais ça m'a fait repenser à la Sainte-Sangaré qui est mort 5 jours après être arrivé à Fleury-Mérogis, aux arrivants. Et voilà. Et en fait, comme tous les endroits, comme au Mitard, à Seyss, à plein d'endroits, en fait, c'est des endroits où les matons ils tuent quoi. Et aussi aux arrivants, parce que justement, leur rôle dans cet endroit-là, c'est de réprimer, de faire peur et que le choc carcéral, comme on l'appelle, soit d'autant plus violent quoi.
Puis après, ce qui est chouette quand même dans cette lettre, c'est la solidarité qu'elle commence à mettre en place avec les autres prisonniers et tout, à envoyer des attestations à l'avocat, même si en fait on sait que souvent ça aboutit pas, ça vaut quand même le coup de le tester, d'essayer de les faire chier et tout. Après, par contre, dénoncer à Darmanin, je crois qu'il s'en bat la race totale. C'est pas trop le moment.
C'est probable. Mais non, mais après, c'est toujours cool de faire circuler l'information, même à l'intérieur de la détention et tout. Voilà, parce que tout l'objectif de l'administration pénitentiaire, ça va être toujours d'isoler les gens et tout ça. Et donc, soit réprimer de manière mesquine d'un côté et tout ça. Enfin, voilà. Sucrer un paquet de tabac ou deux paquets de tabac dans une cantine, dans une autre, tout ça. Et voilà. Et en fait, si petit à petit, tu te rends compte qu'en fait, bah ouais, ils le font pour tout le monde et tout, ça permet aussi d'avoir de la force et tout, et c'est important de faire groupe collectif face à tout ça.
Bah, d'autant plus que la Vivi parle de prisonnières qui n'ont jamais connu la prison et pour qui c'est la première fois, alors qu'elle, en fait, bah, malheureusement, elle connaît déjà les baumettes, donc elle peut aussi expliquer deux, trois trucs, que ce soit pas juste les matons qui posent les règles au début et que les autres, elles puissent discuter avec une prisonnière qui sait comment ça fonctionne à l'intérieur, quoi.
Ouais, puis c'est justement ça, elle voit les trucs aussi qui bougent et les trucs sur lesquels les matons ils viennent grignoter, en fait. Et que du coup, c'est vachement cool, en fait, d'arriver à se rendre compte ensemble des trucs, de discuter et de faire des trucs ensemble, de témoignages. Enfin, ouais, c'est franchement très, très fort, big up, quoi, peut-être très déter.
Puis il y a ces témoignages vers l'extérieur et tout ça avec les baveux et tout. Et puis il y a le truc à l'intérieur aussi d'expliquer comment ça fonctionne. Mmh. Et en fait, de ne pas avoir en fait, à découvrir au moment où tu as une rage dedans, comment tu fais pour faire en sorte que espérer d'avoir un dentiste en urgence ou autre et tout. Ça permet de gagner du temps. Et ça, en fait, l'administration pénitentiaire, elle s'en sert de jamais filer les infos et tout ça, parce qu'en fait, c'est aussi une négociation que tu vas avoir avec le maton en face, qui va lui dire « Bon, attends, j'ai envie d'aller au médical. Oui, d'accord, bah attends, je vais te dire comment faire. » Puis en fait, il t'aura rien dit. Puis trois jours plus tard, tu lui dis « Non, mais vas-y. » Et tout. Et en fait, comme ça, ils auront déjà gagné deux semaines. Et donc c'est toujours d'arriver et de dire bah non, mais en fait c'est comme ça que ça se passe et tout ça, et après derrière que ça se diffuse, c'est absolument essentiel pour pouvoir un peu les faire chier et tout. L'autre truc sur lequel je voulais revenir un peu, c'était sur le fait que tu parlais pas mal des soins et tout ça, et peut-être envoyer un peu aux chroniques de Coco qu'elle faisait il y a 3 ans, si mes souvenirs sont bons, à l'Envolée, où elle rappelait en fait 2-3 bails de droit de la santé, qui est un droit quand même un peu chelou, qui n'hésitez pas à rappeler, même si on sait que dans la pratique c'est jamais vrai, c'est qu'en tout cas le droit, c'est de dire que tu peux être soigné exactement de la même manière à l'intérieur que ce que tu devrais être à l'extérieur. Dans les faits, on sait que, enfin déjà à l'extérieur, c'est de plus en plus la galère pour réussir à se soigner, mais à l'intérieur, c'est vraiment pas le cas. Mais par exemple, l'un des trucs qu'elle répétait régulièrement, c'est que tu as le droit de choisir les médicaments que tu vas prendre. Ils sont pas obligés de t'imposer des génériques. Enfin voilà, pour un certain nombre de maladies graves, ça peut être important. Enfin. Donc je renvoie un peu à ces chroniques et tout ça. Et après, derrière, sur le passage à tabac, peut-être quand même en parler un coup. C'est pas très clair quand, dans la lettre, si en fait tu parles de passage à tabac entre prisonnières ou si c'est des matons qui lui sont tombés dessus. Si c'est des matons qui sont tombés dessus, on les connaît, ils sont toujours violents et ça, c'est pas du tout surprenant, surtout comme on le disait tout à l'heure sur les quartiers arrivants, t'es tout seul et tout ça, voilà, donc ils peuvent plus facilement te tomber sur la gueule comme dans les quartiers d'isolement ou comme au mitard. Si c'est à l'intérieur, c'est toujours un bail sur lequel il faut faire gaffe, c'est-à-dire qu'en fait l'administration pénitentiaire, c'est le meilleur cadeau à faire à l'administration pénitentiaire, en tout cas, que de s'entre-déchirer entre prisonniers et prisonnières. C'est aussi un bail que produit la prison, c'est-à-dire que la prison te force à vivre avec des gens avec qui tu n'avais pas nécessairement envie de vivre et tout. Et donc,
il y a 3 ou 4 ans en cellule, en maison d'arrêt.
Voilà, donc en fait, c'est produit par la prison, c'est les violences qu'il va pouvoir y avoir et tout. Mais juste rappeler qu'en fait, c'est produit par la prison et un putain d'outil pour l'administration pénitentiaire. Et donc,
pas seulement produit par la prison, en mode ils n'ont pas fait exprès, ils ont juste dispatché les gens en cellule et puis il se trouve qu'ils ne s'entendent pas. Ils font aussi parfois exprès de mettre les gens avec des gens qui ne s'entendent pas parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir utiliser ça, quoi.
Ou balancer une soi-disant fiche pénale ou ce genre de truc à quelqu'un qu'ils ont envie de défoncer. Et en fait, ça, c'est quand même assez régulier, les moments où des prisonniers collabos, parce que ça existe, sont envoyés par l'administration pénitentiaire pour aller régler des sorts à des gens, quoi.
Oui, et puis que les prisonniers se règlent entre eux, ça les évite de venir régler les prisonniers aussi.
Ah bah ça c'est sûr. Donc voilà. C'est d'ailleurs pour ça que, généralement, enfin voilà, il y a l'interdiction des matons d'entrer dans les cours de promenade et tout, mais en fait ça leur sert bien aussi quoi. Donc voilà. Seconde lettre.
Ouais.
Alors, donc c'est une lettre de Pascal.
Ouais, c'est ça. Alors qui date du 26 mars 2025 de Fresnes. Bonjour l'envolée, j'évoquais les auditeurs et les auditrices par simple curiosité, histoire de savoir si vous avez d'éventuels retours. Cela arrive parfois dans certaines émissions sur les prisonniers que nous sommes. J'aurais bien aimé tenter de vous écouter, si vous êtes ok de me transmettre la fréquence ainsi que le nom de la radio. Je sais que la mère d'une amie vous écoute depuis sa campagne natale, plutôt amusant. Alors il s'agit bien d'un UHSA dans lequel je suis allée quelques jours. Dommage que je ne puisse pas vous envoyer une copie de l'arrêté qui confirme mon admission dans cet établissement. Le certificat médical d'un psychiatre, une dinguerie, si je puis dire. Paraîtrait qu'à ce moment-là, je souffrais de troubles mentaux rendant impossible mon consentement, constituant un danger. Là, je m'éclate de rire et à la fois de colère. J'avais juste besoin d'un peu de repos et d'une rupture avec l'AVO. Une tôle dans laquelle j'ai vu mes conditions de détention se dégrader, alors que le ministère m'assurait du contraire par un courrier que j'ai bien sûr refusé de signer. Même la direction de Vivonne a été choquée. Je précise que je ne prends aucun traitement. Pour évoquer le CNE, celui-ci est terminé depuis le 16 mars, arrivé en deuxième division, mais celle-ci n'a rien d'une division militaire. Un peu d'humour. Oui, durant ce cycle, ils disent comme ça, tu es analysé, observé, disséqué et oui, rejugé. Je n'ai pas voulu me soumettre à ce petit jeu-là, parler de son enfance, la mienne est loin. Évoquer les faits avec détail, ça ne regarde que moi. Surtout quand tout est fait à charge, que l'on m'a refusé une reconstitution, une confrontation. En fait, des situations qui auraient bien changé les choses et peut-être m'éviter une si lourde condamnation. Il y a des choses que l'on peut accepter, mais on ne peut pas culpabiliser surtout de s'avouer coupable pour satisfaire une justice du genre répressive. Même l'OIP et la Contrôleuse générale des lieux privatifs de liberté s'en est indignée. J'ai eu l'occasion de dialoguer avec ces deux institutions, à Vivonne et à Orléans, UHSA. Chacun a pu constater que je ne mentais pas sur ce que je subissais, ce que nous subissons. Après le CNE, il faut donc patienter en deuxième division, dans l'attente d'une affectation en établissement pour peine. Le Club Med, quoi. On décide pour toi celui des établissements qui sera le mieux adapté à ton profil, au détriment parfois des liens familiaux. Ce qui est important pour un soupçon de mieux être pour le détenu et ses proches. Pas évident de résister à tout lorsque tu es loin de tes enfants, que le procès est expédié, tronqué. On te juge sur un passé et on te coupe l'envie d'avoir un avenir. Heureusement qu'il y a des rencontres qui permettent de garder un brin de sa dignité, de son humanité. Je vais essayer de ne pas vous décevoir en restant encore quelque temps déterminée. Amicalement, Pascal.
Bah merci Pascal pour ta lettre. Je pense qu'avant, parce qu'il y a beaucoup d'informations dans cette lettre et surtout beaucoup d'informations sur un peu par où il est passé et tout, parce que, enfin, pour resituer un peu, du coup, Pascal, c'est un prisonnier qui est un prisonnier longue peine qui était à Poitiers et qui a été transféré en maison d'arrêt à Trois-Laveaux dans une nouvelle tôle maison d'arrêt et qui, du coup, là, nous raconte un peu qu'en fait, il nous racontait dans différentes lettres avant que cette tôle, ça lui avait fait péter un câble, qu'en fait, c'était. Quand t'es habitué à des. Lui, il était un prisonnier de longue peine qui est passé par des centrales et en fait, tu te retrouves dans les nouvelles maisons d'arrêt qui vendent comme. Voilà, où t'as plein d'activités, en fait, il se passait rien. C'était ultra, ultra vieux. Enfin, voilà, c'était vraiment la merde, quoi, dans cette maison d'arrêt. Et du coup, qui est passé par les UHSA. Donc là, il nous raconte un peu, en fait, ce truc de. En fait, que ça lui a été imposé, quoi, certificat médical en mode. Ton état mental, enfin, en gros, t'es un danger pour toi-même. Enfin, voilà, on sait pas. Il raconte pas vraiment. Comment ça se passe, mais en tout cas, ça lui a imposé par ce truc de. Genre, c'est toujours la même chose, quoi. En fait, c'est la vision du soin, entre guillemets. C'est genre, en fait, je sais pas si ici quelqu'un croyait que c'était pour le bien des prisonniers de passer par les UHSA, mais en tout cas, ce genre de certificat médical le montre. Et en tout cas, Pascal, c'est quand même quelqu'un qui les fait chier aussi. Et ça montre qu'en fait, juste, il l'envoie en UHSA en mode parce que, en fait, je pense que aussi en maison d'arrêt, il leur cassait un peu les couilles. Parce que voilà, les prisonniers qui sont passés par les centrales, et ben en fait ils vont pas se laisser faire aussi sur des trucs et du coup ben, ils lui disent vas-y t'es un danger pour toi-même et t'es pas capable de je sais pas d'avoir assez de consentement enfin de penser par toi-même tu vois du coup on te fout en UHS ça et après du coup après bon, on va revenir et, du coup il passe et là maintenant il est à Fresnes en CNE et c'est ce qu'il raconte sur le fait d'être rejugé et tout.
Ouais. Et juste sur le truc des UHSA, parce que là on parlait de santé sur la précédente lettre de Vivi, quand ils ont créé les UHSA, il y avait un bail de justification en mode, bah justement en fait on crée les UHSA pour que les prisonniers puissent se soigner comme à l'extérieur en fait, sur le truc d'égalisation, du coup on va créer des prisons hôpitaux, comme ça voilà, la santé mentale n'est plus inaccessible aux prisonniers, donc super. Mais que aussi il y a un truc qui est un peu important, c'est qu'en fait à l'extérieur, ils enferment plein de gens sans consentement, c'est le truc d'hospitalisation sans consentement dans les hôpitaux psychiatriques et tout, où bah là, il y a la parole d'un psychiatre qui va valoir beaucoup plus que la parole de la personne qui est enfermée, qui en fait a globalement jamais le droit de parler, et donc depuis quelques années, il faut passer devant le JLD, donc le juge des libertés et des détentions, pour la prolongation de l'hospitalisation. En général, les gens sont même pas présents à l'audience, et donc à aucun moment peuvent s'exprimer là-dessus. Et en fait, on se doute bien qu'à l'intérieur, le truc de parole des prisonniers contre celle du psychiatre, depuis son statut et tout, elle vaut probablement encore moins, quoi. Donc ils peuvent écrire ce qu'ils veulent sur le papier.
Ouais, et puis c'est vraiment une dinguerie dans ces lieux-là. Et en fait, il y a assez peu personnes qui va voir comment ça se passe dans ces audiences. Et c'est assez délirant, quoi. Et c'est, enfin, on raconte souvent les audiences de JLD pour les gens qui sont enfermés en CRA. Et là, c'est encore pire que ça, quoi. Enfin, c'est vraiment de la folie. Voilà, et juste pour rappeler un truc, c'est qu'il n'y a même pas de limite d'enfermement à ce truc-là, quoi. Donc, en fait, voilà, il y a un juge et puis un psychiatre qui vont pouvoir décider ensemble, hein, parce que bon, bah, voilà, on imagine qu'ils se recroisent tous, ils se connaissent, tout ça, blablabla, donc ils se font confiance et tout, et puis ils enferment et tout.
Bah, ouais. Y a vraiment des gens dans les AHP qui sont depuis des années et des années et qui n'ont aucune idée de quand est-ce qu'ils vont pouvoir sortir de là, quoi.
Oui, puis je pense que c'est important quand il utilise le truc de repos pour parler des UHSA, c'est de l'ironie. Hein. Enfin, on a lu une lettre de lui il y a, je sais pas, un mois, un truc comme ça, où justement il décrit les UHSA par rapport à la tôle. Et que, enfin, juste, c'est important de redire, ça reste la prison. Et en fait, les trucs de contrôle en fait qu'ils ont, donc ils ont pas tel, ils sont encore plus contrôlés, genre quand ils vont se ça reste la tôle, quoi. Donc parce que c'est, faut suivre un peu le truc, parce que du coup il y a aussi beaucoup d'ironie, quoi, sur ce truc de la maison de repos, quoi, qui n'est absolument pas.
Et après, des fois, ça permet quand même un peu de sortir et tout, parce que quand t'es dans une maison d'arrêt où ça se passe vraiment mal ou quoi, c'est parfois un truc qui peut filer un coup de main à certains moments, en fait. Mais comme d'hab, en fait, ça dépend des gens et tout ça, et tout, quoi.
Des UHSA aussi, je pense.
Et des UHSA, bien évidemment. Peut-être juste un truc, en fait, nous, tous ces bails de jugement et tout ça, comment ça s'est passé, tout ça, c'est pas trop un truc qui nous regarde, en fait, et tout. Y a probablement plein de gens qui sont enfermés pour des mauvaises raisons, qui sont pas coupables et tout ça. Il y a au moins un tiers de la population carcérale qui est pas encore jugée et tout ça et tout. Et donc en fait, nous, c'est pas, enfin, en tout cas, c'est pas là-dessus en fait que je pense qu'on doit te répondre et tout ça, parce que c'est pas trop le sujet en tout cas de l'Envo. Et tout, on va pas, enfin voilà, on fait pas partie des gens qui participeront à justice au moment du procès et tout. Donc, enfin voilà, c'est juste pour dire, en fait, enfin moi, je sais pas du tout pour, enfin je comprends que tu sois dans un truc vénère par rapport à tout ça et tout ça, mais c'est juste pour dire, bah, nous en fait, ça nous regarde pas des masses. Et ça, tu vois ça en fait soit avec ton baveux, soit avec d'autres personnes et tout, mais c'est pas trop un truc sur lequel on peut en dire des tas.
Ouais, surtout nous, on n'est pas, enfin en fait, ce discours d'innocentéisme et tout, de qui est innocent, qui l'est pas, en fait, nous, on est, enfin voilà, on n'est pas des juges, on n'est pas là pour décréter qui est innocent et qui l'est pas. Après, il y a des trucs sur lesquels, bien sûr, on est d'accord avec toi, c'est-à-dire en fait que quand t'as déjà été condamné à une longue peine, tu vas prendre plus cher à ta deuxième peine, c'est exactement le cas pour lui, ça c'est clair, enfin, que, et c'est ce qui se passe pour lui, enfin voilà. Et que après, que au CNE, t'es rejugé, c'est ce qu'il explique très très bien, en vrai, il n'y a pas besoin d'autres mots aussi que ce qu'il raconte, quoi, que. Bah, qu'en fait le CNE c'est enfin voilà pour bah te rejuger, enfin tu t'es rejugé une énième fois et tu vas, enfin voilà, tu revis aussi ton jugement, t'es obligé de t'excuser, tu passes devant des psys, tout un tas de trucs et tout, et tu sais très bien que si tu tu te tiens pas à carreau globalement.
Bah, c'est comme au procès, quoi, en vrai. C'est qu'il faut dire que t'es d'accord, que tu reconnais, que c'est ta faute, machin. Ça, en vrai, c'est un vrai truc que les juges, ils attendent ça pendant les procès et que la peine, elle va parfois, comment dire, ça va avoir une conséquence parfois sur la peine en fonction de comment tu dis au juge que ouais, voilà, t'es de ouf, trop désolé de ce qui s'est passé et tout. Mais c'est la même chose au CNE, c'est que là, ils jugent si t'acceptes ta peine ou pas. Et s'ils considèrent que t'acceptes pas ta peine, et bah, ça va avoir une conséquence sur la suite, quoi.
Il y avait un autre truc. Ouais, si, tu dis que tu as peur de nous décevoir. Mais t'inquiète, hein. Fais ta détention et tout. Non, mais en fait, c'est un vrai truc. En fait, tu nous dois rien. Enfin, tu vois, et tout. Nous, on fait gaffe à essayer. Enfin, je dis nous. Moi, je n'ai pas beaucoup de correspondance. Mais en tout cas, de manière générale, les gens ici à l'Envaux essayent de répondre et tout ça dans des délais à peu près corrects et tout ça. Et voilà. Mais juste, en fait, tu nous dois rien. En fait, ce n'est pas les rapports qu'on essaye de construire avec les gens, des rapports de devoirs réceptifs. Voilà. Nous, ce qu'on essaye d'établir, c'est des rapports de confiance avec les gens et tout. Mais c'est pas un truc où, en fait, tu nous dois quelque chose et tout ça. Si tu as l'énergie de te battre et tout ça, bah, nous, en fait, on sera là pour continuer à relayer ta parole sur ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Et si après, derrière, t'as plus envie de te battre ou quoi, et voilà. Et nous, on va jamais non plus porter un jugement là-dessus. Voilà, il y a 80 000 prisonniers en France, la grande majorité, ils font leur peine tranquille et tout ça. Et puis, bah, il y a un moment où se passe un truc qui est pas. Où ça devient plus intense la répression que tu te prends dans la gueule et puis t'as envie de bouger. Bah voilà, en fait, chacun a des détentions qui sont celles qu'elles sont. Et nous, en fait, on va pas porter d'avis et encore moins de jugement là-dessus. Donc, ouais, enfin, voilà, je sais pas, moi, c'est le terme décevoir, je crois, qui m'a fait bizarre parce qu'en fait, on n'a pas, enfin voilà, on n'a pas à être déçu ou pas, ou heureux. Enfin voilà, nous, on essaye de relayer au maximum les luttes de l'intérieur, enfin, notamment les luttes de l'intérieur et on continuera à le faire, mais en fait tu nous dois pas de lutter absolument et tout quoi, enfin voilà.
En tout cas, on n'a pas besoin de l'OIP ou de la CGLPL pour penser que tu mens pas sur ce qui se passe à l'UHS.
Oui, non plus.
Non, on te croit, ouais. Et ben en vrai, pour peut-être pour finir, on va rendre souhaite plein de force dans cet énième moment d'attente qui est l'après CNE et pour cet énième transfert que tu vas vivre encore après le CNE quoi.
Et donc juste pour te dire, en fait, si t'es, vu là où tu es normalement, 106.3, tu peux nous entendre quoi. Alors parfois, il faut juste que tu fasses un petit bidouillage, que tu te mettes des fourchettes et tout ça, voilà, pour faire une longue antenne, parce que notre émetteur radio est pas incroyable. Mais normalement, tu dois pouvoir nous entendre quoi.
Ouais, donc du coup, plein de force à toi. On espère que t'entendras les prochaines émissions. On va passer un petit peu de musique.
J'ai le tampon du roi du Maroc sur ma plaquette. Un verre du champagne à 1000 euros sur la moquette. Passe une soirée marvelousse avec une cartache. Tac mes sous à hamster avec mes cardèches. J'ai les pochetons avec les feuilles de canne. C'est la mafia d'Italie, le cartel de Cali. Devant le hall 13, je coupais des lamelles. J'fais sonner l'alarme incendie à l'hôtel. Nouvelle floraison, j'me roule à pétard. Fabrication maison, la weed et du miel. Pour trouver le sommeil, assise du mat, la police me réveille. Ils ont appelé la police pour moi. Ça sentait la weed devant chez moi. J'ai planqué mes billets, planqué la peufra. J'vais être en galère, peut-être en placard. Donc j'allume un gros spliff, nocif, gros spliff. En club, la grécouche, je la cible. Je la cible, je me prends pour un grossiste. Smartphone pour la prison, cellophane. J'arrive à Medal, les coffres sont fermés. Une liesse de billets, cellophane. 20 grammes de peufra, cellophane. Sur le t-shirt, weed life, rime gush. Elle en perd son string, elle en perd son gush. Pour nous c'est blèche, y'a pas de saison sèche. Et même quand le prix du kilo monte en flèche, je passe les crash tests, tous les alcotests. Quand la volaille arrive pas meilleur cachette que les fesses. Dans l'habitacle j'ai caché la peur. Et du nerf de chef Shewin dans la théière. Là c'est la via Marbella. On marche en l'air chiché le narguilé. Avec les copains on fait les grillades. Et ta mère t'es pas invité. Ils ont appelé la police pour moi.
ça sentait la weed. Devant chez moi, j'ai bloqué mes billets. Bloqué la peufra, je vais être en galère. Peut-être au placard, donc j'allume un gros spliff. Nocive, gros spliff. En club, la grégouille, je la cible. Je la cible, je me prends pour un grossiste. Grossiste, ils ont appelé la police pour moi. Ça sentait la weed. Devant chez moi, j'ai bloqué mes billets. Bloqué la peufra, je vais être en galère. Peut-être au placard, donc j'allume un gros spliff. Nocif, gros spliff. En club, la grigouille, je la cible. Je la cible, je me prends pour un grossiste. Grossiste.
Vous êtes de retour à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel et en diffusion un peu partout.
26h.
Ouais, c'est parti, on va faire 24 heures d'émission. Voilà, on est trop chaud ce soir. Non, et donc on est en diffusion un peu partout en France par plein de radios locales qu'on remercie. Pour rappeler les contacts, vous pouvez nous écrire à l'envolée-fpp 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris. Vous pouvez nous appeler soit pendant le direct au 01 40 05 06 10 ou sur le téléphone 07 53 10 31 95 et il y a les applis sécurisées. Moins désécurisé que le reste voilà, je suis désolé de ces expressions pourries. Voilà, vous pouvez aussi nous contacter par les réseaux sociaux Twitter et Insta et puis par mail à contact@l'envolée.net. On continue l'émission pour parler de la Kanaky et un communiqué que nous a envoyé
Solidarité
Kanaky. Donc on peut renvoyer aussi aux émissions qu'on a fait régulièrement avec Julie. Et il y a eu aussi mercredi soir une émission sur FPP et tout ça avec 3-4 Kanaks qui parlaient et tout. Voilà.
Du coup, je vais vous lire le communiqué qui s'appelle « Libération de tous les prisonniers de l'insurrection de 2024 et rapatriement immédiat de tous les déportés kanak. Solidarité Kanaky est un collectif qui appuie les luttes du peuple kanak pour son autodétermination et l'indépendance de la Kanaky. Dans cette optique, un groupe de travail a été constitué à l'été 2024 afin d'établir un tissu de solidarité en France avec les kanaks qui subissaient la répression du pouvoir colonial. Parce que la prison est un des outils principaux entre les mains de la puissance colonisatrice, nous avons décidé de nous organiser en soutien avec tous les prisonniers déportés en France. Car si les mobilisations pour les militants et militantes de la CCAT mis en examen et déportés en France se sont faites assez naturellement, la situation des autres Kanaks condamnés de droit commun et déportés a fait l'objet d'une moindre prise en compte. Pourtant, ces prisonniers sont aussi victimes de la répression coloniale. Il nous a semblé important de leur apporter un soutien tant politique que matériel et d'informer sur leurs conditions de détention et l'illégalité de leur déportation. Dans ce but, nous sommes organisés depuis la France et en Kanaky avec les familles, les sévices pénitentiaires, la pause décoloniale, le comité de solidarité avec les prisonniers politiques de Kanaky, le CSPPK et plusieurs autres organisations indépendantistes. Depuis mai dernier, la répression coloniale s'est abattue de plein fouet sur les insurgés en Kanaky. Plus de 3000 personnes ont été interpellées. Rapporté à la population française, cela représenterait près d'1,5 million de personnes arrêtées. Cependant, la répression n'est pas seulement policière, elle est aussi juridique. L'objectif a été dans un premier temps de ficher tout le monde. Selon le CSPPK, il y a eu près de 2500 gardes à vue, 500 déferments en comparution immédiate, beaucoup sans avocat ou avec des commis d'office non indépendantistes, plus de 200 mises en détention préventive, près de 500 peines alternatives, TIG, donc travaux d'intérêt généraux, ou avec privation de liberté, ont été prononcées. La force létale a été utilisée immédiatement dans les rues de Nouméa contre la population et a fait de nombreux blessés, dont le décompte n'a pas pu être fait. On sait également qu'une douzaine de Kanaks au moins a été assassinée par les forces de l'ordre et les milices de colons. Les mobilisations ont aussi eu lieu à l'intérieur des prisons, contre les conditions de vie et en soutien à l'extérieur, en tant que partie du mouvement contre la loi sur le dégel du corps électoral. Plusieurs mutineries ont éclaté dans la prison de Nouméa, le camp Est, notamment avec un tiers des cellules brûlées. Dans un réflexe colonial toujours plus répressif, la France a envoyé 3 unités pour mater ces mutineries, le RAID, le GIGN et les ERIS. Leurs interventions à l'intérieur de la prison de Caen Est a été extrêmement violente, avec plusieurs prisonniers blessés. Plusieurs témoignages de prisonniers font même état de la mort d'un jeune d'une vingtaine d'années, originaire de Canala, suite à des coups reçus. Dans l'arsenal des méthodes coloniales utilisées par l'État français pour mater la révolte, celui-ci a remis au goût du jour la déportation, déplaçant des prisonniers à 17 000 km de chez eux pour les envoyer dans les prisons françaises. En effet, le 22 juin, 7 militants et militantes de la CCAT, mis en examen, sont déportés le soir même aux quatre coins de la France. En parallèle, plusieurs vagues de déportations de prisonniers du camp Est vers des prisons en France ont eu lieu. Cela pour but à la fois d'éloigner des prisonniers ayant participé aux émeutes en prison, mais aussi de vider la prison de Caen Est et d'enfermer plus. Nous avons identifié près de 68 détenus déportés dans une quarantaine de prisons, chiffre non exhaustif. Cette punition collective met en évidence l'aspect colonial de l'incarcération en Kanaky. À l'instar de la population des deux prisons en Kanaky, Kone et Caen Est, la quasi-totalité des déportés sont des Kanaks et pour le reste, des Océaniens. Les prisonniers, déportés du jour au lendemain, racontent tous l'impossibilité pour eux d'avoir accès au minimum pour vivre. Vêtements, argent, contact avec leurs proches, avocats. En plus d'être à des milliers de kilomètres de leur terre, l'éparpillement sur tout le territoire français fait que les déportés se retrouvent souvent être les uniques Kanaks présents dans leur prison, ce qui les isole considérablement de leur culture et liens familiaux. Des prisonniers nous ont communiqué les noms d'autres prisonniers Kanaks. Certains d'entre eux sont entrés en contact avec nous, alors qu'ils avaient été transférés en France depuis plus de 2 ans. Notre solidarité s'est exercée avec l'ensemble des Kanaks, y compris ceux qui n'appartenaient pas aux déportés de l'année 2024, car tous sont victimes de l'État colonial français. Et le fort isolement dont ils témoignent est le même, certains n'ayant pas parlé à une autre personne Kanak depuis plusieurs années. Cela nous a permis de mettre en évidence que ces pratiques coloniales ne sont pas nouvelles, mais se sont amplifiées en 2024. Ils font également part de l'incertitude quant à leur prolongement de peine, des commissions disciplinaires dont ils n'ont pas de nouvelles, de leurs avocats qui n'ont été mis au courant de rien, de commis d'office au pays avec qui ils n'ont plus de contact, de problèmes administratifs liés à leur déportation. L'opacité de la machine judiciaire et pénitentiaire est une violence de plus pour eux, et tout est organisé pour empêcher tout recours contre ces déportations illégales et inhumaines. À ce jour, tous les prisonniers déportés identifiés étaient déjà incarcérés avant le début de l'insurrection de mai en Kanaky. Certains sont bientôt libérables. Ils se retrouvent alors à devoir trouver, alors qu'ils sont isolés, des hébergements, formations et emplois en France, où ils risquent d'être maintenus selon les contraintes judiciaires de leur libération. La France, après leur avoir fait subir ces déportations forcées, ne paiera aucun billet retour. Les prisonniers libérables seront donc libérés en France sans aucun moyen de retourner sur leur terre auprès de leurs proches. L'administration pénitentiaire les enjoint à se débrouiller pour payer eux-mêmes leur billet retour, alors que celui-ci coûte plus de 1 000 euros. Un de nos objectifs initiaux était de créer un guide d'aide destiné aux familles qui n'avaient pas reçu de nouvelles suite aux déportations. La création de ce livret a été réalisée en collaboration avec des collectifs présents en Kanaky, tels que les sévices pénitentiaires et la pause décoloniale. Et un contact téléphonique a été mis en place pour permettre aux familles ou prisonniers d'avoir une ligne directe. Notre travail a ensuite consisté à retrouver tous les prisonniers que nous savions avoir été déportés en France et à identifier ceux dont nous ne connaissions pas encore le nom avant de les localiser sur le territoire. La prison ne fait pas qu'enfermer, elle isole aussi. Il est difficile de savoir où se trouve un prisonnier, d'obtenir son numéro d'écrou et d'établir le contact avec lui. C'était donc notre troisième tâche, entrer en contact avec eux. Nous avons donc écrit le même courrier à tous les déportés que nous avions recensés, soit des dizaines et des dizaines de lettres. Ainsi, un contact direct a été mis en place par courrier avec tous les déportés qui le souhaitaient pour tenter de subvenir à leurs besoins en argent, avocats, linge ou contact avec leur famille. Des avocats volontaires ont ainsi été désignés pour suivre et aider les déportés, que ce soit sur leur dossier pénal, recours contre la déportation ou encore concernant leurs conditions de détention au camp Est ou en France et leur rapatriement pour ceux qui le souhaitent. Des mandats ont été envoyés et des colis de vêtements ont aussi été préparés. Les vêtements jouent un rôle important, les prisonniers ayant été arrachés du jour au lendemain et n'ayant eu que très peu de temps, voire aucun, pour faire leurs affaires et encore moins se préparer à l'hiver. Notre solidarité prenait ainsi forme au rythme des courriers. Cependant, cela n'a pas toujours été simple, car les conditions de dépôt d'argent et de linge diffèrent d'une prison à l'autre. Tout dans l'administration pénitentiaire est fait pour compliquer la solidarité, notamment à travers des contraintes administratives ubuesques, ou la nécessité d'obtenir un permis de visite, long et difficile à obtenir, pour de nombreuses démarches. Le fait que les permis de visite impliquent souvent d'être de la famille pour être obtenus empêche fortement toute solidarité militante. Par ailleurs, les liens entre une famille et un prisonnier peuvent souvent être très compliqués dans une situation carcérale, ceci d'autant plus lorsque la famille du prisonnier vit à 17 000 km et qu'il faut se reposer sur une famille éloignée déjà installée en France, avec laquelle les liens sont parfois bien plus faibles quand il y en a. Nous nous sommes également interrogés sur l'attitude à avoir vis-à-vis des familles des prisonniers. Devions-nous entrer en contact avec elles ou non ? Nous veillons toujours à ne pas rentrer dans l'intimité des gens et à ne pas insister auprès des familles qui ne voudraient pas être en contact avec nous ou le prisonnier. Parmi les prisonniers avec lesquels nous sommes entrés en contact, il y avait plusieurs prisonniers dits de droit commun. Nous avons décidé d'exprimer notre soutien à tous les prisonniers, indépendamment de leur peine, au vu de la situation coloniale subie. Il y a une spécificité de l'emprisonnement en Kanaky et un rôle colonial de la prison. Les mutineries ne sont pas une mobilisation extérieure à l'insurrection, mais en ont fait partie, en plus d'être une révolte contre les conditions de détention. Par l'usage de la déportation, l'État agite une punition collective destinée à endiguer les feux de l'insurrection qui se sont propagés à l'intérieur même des prisons. C'est la continuité même de la colonisation initiale de la Kanaky par le pouvoir colonial français depuis 1853. En 1864, la Kanaky devient rapidement une colonie pénitentiaire avec la construction du bagne de Nouméa, utilisé pour y déporter des prisonniers de France ainsi que des résistants des autres colonies françaises jusqu'à 1897 et actif jusqu'en 1931. Le camp Est, nouveau nom du bagne, poursuit son rôle colonial en enfermant très largement les populations kanaks dans les mêmes bâtiments. Il est prolongé par la récente prison de Koné et la future prison de Nouméa. Dans la seconde moitié du siècle dernier, l'incarcération coloniale de militants et militantes indépendantistes en France ou dans d'autres colonies était monnaie courante, qu'il et elle soit de Kanaky, de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de Corse. La dernière fois que la France fit usage de la déportation de militants indépendantistes kanak date ainsi du massacre d'Ouvéa en 1988. La déportation a toujours été un outil pour mater les mouvements insurrectionnels et anticoloniaux dans le monde. La situation actuelle nous rappelle à quel point la France s'inscrit dans cette démarche impérialiste. La politique pénale de déportation dans les bagnes a été abolie en France, mais a été maintenue pour les déportés kanak et de tous les autres peuples colonisés. En pleine insurrection, la France intensifie sa répression par tous les moyens. Nous revendiquons la libération et l'abandon des poursuites de tous et tous les prisonniers arrêtés dans le cadre de l'insurrection de 2024, ainsi que le rapatriement immédiat de tous les déportés qui le souhaitent. Nous réclamons vérité et justice pour toutes les victimes de la répression coloniale, blessées ou assassinées en Kanaky. Indépendance pour Kanaky.
C'est assez cool parce qu'en fait, ils reviennent vraiment sur tout et notamment l'énorme taf de solidarité qu'ils ont fait depuis la France. Et je trouve que c'est cool dans ce qui est montré aussi comment. Je sais pas, on était là, on voyait ce qui se passait là-bas en Kanaky et tout. C'est compliqué. Si t'as une solidarité évidente où tu te dis ce qui est en train de se passer, on est en soutien et tout ça, le rendre matériel et concret, c'était ça. En tout cas, je pense que pour pas mal de gens, c'était un peu difficile de voir comment mettre en place réellement une solidarité. Et c'est vraiment un taf de Guedin qu'ils ont fait depuis ici. Je trouve que c'est presque trop mollasson la manière dont ils présentent tout le taf qu'ils ont fait et tout, quoi. Parce que c'est signalé que les vêtements, c'est compliqué. Je sais pas, pour les gens qui ont déjà déposé des colis et tout dans une tôle sans avoir de permis de visite ou quoi, en fait, vous savez ce que c'est. Quand c'est pour une tôle, c'est déjà une galère parce que tu vas voir au téléphone, on va te dire « Ah, il y a tel truc que tu as le droit » et tout ça. Puis en fait, quand tu vas arriver, on va te dire « Non, c'est pas l'autre truc ». Puis au moment où tu vas arriver, on va te dire « Ah oui, non, mais vous n'avez pas de parloir ? Ah bah non, mais désolé, en fait, il faut absolument avoir un parloir pour déposer un colis. Ah oui, vous connaissez toutes les... » Voilà. Donc, 40 établissements. Vous multipliez ça par 40. Et c'est vraiment... C'est vraiment de la folie et tout. Rappeler aussi que le lien qui a été fait, il est fait aussi avec des gens qui ont enfin qui en fait sont la journée c'est quand nous on dort et inversement en fait voilà et donc ça entraîne des trucs, c'est débile en fait, mais concrètement ça entraîne des vrais trucs, et notamment parce que les gens à l'intérieur quand t'es enfermé en fait, si tu veux avoir un coup de téléphone avec les proches tes proches kanaks qui sont en kanaki, et eh ben t'es obligé de les réveiller au milieu de la nuit. Et tout, et en plus tu payes des sommes absolument démentielles. Voilà, donc
c'est ce qu'il nous racontait Ismaël, je crois, dans une lettre où il nous disait par exemple que lui il avait accès, enfin il avait rien du tout, pas de télé, que dalle et tout, parce qu'en fait bah il gardait tout son argent pour pouvoir contacter sa famille, et que bah du coup c'était un peu l'enfer et qu'il galérait de ouf avec les horaires.
Bah ouais, mais justement, moi je voulais revenir un peu sur ce que tu disais Serge. Enfin, je pense que ce texte il montre très bien en fait aussi tout le taf de solidarité qui est fait par les familles, les familles de prisonniers en France, et en fait tout ce taf de l'ombre en fait qui là du coup est fait par des militants et pour genre 60 prisonniers et tout, et qui demande du coup un taf de fou, parce que voilà, c'est ce que tu disais, il faut checker les différents règlements des prisons et tout, mais que surtout bah ce taf en fait de base il est fait par les familles, notamment les meufs qui vont en fait faire ce taf d'emmener le linge, de checker aussi, enfin de voilà, de se prendre des bâches, des matons qui acceptent pas les habits telle couleur comme d'hab, enfin voilà, et que du coup je trouve que ça montre aussi comment juste la solidarité aux prisonniers qui est réalisée quotidiennement par les MIF des prisonniers, enfin voilà, que en fait elle est d'autant plus nécessaire dans ces moments-là où les canaks sont isolés, et que du coup bah c'est très très chouette de le faire, parce qu'en fait il y en a besoin, sinon il y a personne pour le faire, quoi, tout simplement.
Oui, ce qui est vraiment chambé dans le communiqué, c'est ce truc de prendre position qu'en fait il n'y aura pas une solidarité qui sera différente avec les militants étiquetés politiques et les militants dits de droit commun, et qu'en fait notamment dans des situations de ce type-là, où en fait bah, y a de fait un mouvement politique structuré derrière pour l'indépendance de la Kanaky, et bah, c'est aussi un peu les moments où en fait on oublie que l'enfermement c'est pas juste pour réprimer des militants, et que c'est aussi pour réprimer une population, ce que Julie disait à l'antenne, qu'en fait les prisons en Kanaky elles servent à enfermer la jeunesse kanak, et c'est ça qu'elles font dans des proportions complètement délirantes, hein. Le communiqué il le dit pour les personnes arrêtées, que ça représenterait plus d'un million de personnes en France si on compare proportionnellement, quoi. Et donc c'est vraiment important de considérer les choses comme ça. Et en fait, là, par rapport à ce qui s'est passé en Kanaky depuis mai dernier, bah, dans la presse, il n'y a eu que des trucs sur les militants et militantes de la CCAT. Et en fait, quasiment personne ne parle de la soixantaine autres prisonniers qui ont été déportés en métropole. Et donc, en fait, c'est vraiment important de parler de ça. Et Solidarité Kanaky, ça fait partie de ces collectifs qui ont vraiment porté ce truc-là depuis le début des révoltes. Enfin, qui n'est pas vraiment le début des révoltes, mais en tout cas, depuis que la situation a explosé en Kanaky en mai dernier.
Ouais. Et concrètement, ça fait des choses qui sont pas simples, hein, parce que quand elle dit les peines, elle dit aussi quelles sont les raisons des peines et tout ça, et qui font que bah voilà, ça n'a pas été non plus super évident et tout. Et c'est des choses sur lesquelles bah ils ont pas lâché, voilà. Et c'est vraiment cool de le remettre, parce qu'en fait, dans le fonctionnement général des pratiques coloniales de l'État, quoi. Et c'est pas parce que t'es jugé pour des violences patriarcales et autres que en fait la violence de l'État colonial et ta peine, elle va pas être différente parce que t'étais kanak et tout, quoi. Et de le garder en tête et tout, et de l'avoir défendu comme position, c'est cool, quoi. Enfin voilà, c'est sérieux, quoi. Enfin voilà, quoi.
Ouais, puis de dire aussi que c'est une pratique coloniale qui est pas nouvelle, en fait, qu'il y a plein de prisonniers longue peine qui enfin, c'est aussi remettre la lumière sur ce que ont vécu les gens depuis que c'est une technique de la France, enfin qui est utilisée par la France depuis je ne sais pas combien de temps, et que justement on parle beaucoup à l'antenne des prisonniers longue peine qui viennent de Guadeloupe ou de Kanaky, et qui sont déportés en France dans des centrales loin de leur famille aussi, en fait, et je trouve que ce texte il remet bien aussi ce truc de en fait ça fait partie de l'arsenal entre guillemets de l'État français c'est justement à la suite de ça aussi le truc de la sortie et de enfin où ils disent en fait La sortie, déjà, c'est dur quand t'es prisonnier, entre guillemets, lambda en France, et que tu sors et que tu galères à trouver un taf, que t'as pas de thune et tout. Mais du coup, encore plus quand des canaques, que t'es à 23 000 bornes de chez toi, qu'en fait il te faut déjà 1000 euros avant de commencer pour pouvoir rentrer chez toi, que tu connais personne, que t'as pas de NIF, que t'as rien. Et du coup, voilà, c'est encore la punition supplémentaire, quoi. C'est la punition dans la punition dans la punition, quoi.
En fait, le taf qui a été fait par Solidarité Kanaky, en fait, il permet aussi de mettre en lumière comment ça se passe probablement les autres déportations, en fait, de prisonniers qui sont à Mayotte, qui sont à La Réunion, qui sont en Guadeloupe, qui sont aux Antilles. Et ça, bah, nous, à l'Envolée, c'est un truc sur lequel on parle quand même très rarement, parce qu'en fait, on n'est pas en contact avec des gens qui seraient dans ces prisons-là et qui, du coup, bah, une fois déportés en France, pourraient nous raconter ça. Surtout qu'il y a aussi des déportations qui se font d'un territoire à l'autre. On en avait un peu parlé là à Mayotte quand il y a eu la grosse mutinerie, je crois que c'était en septembre, où en fait on sait qu'ils ont déporté des prisonniers à la fois en métropole mais aussi à La Réunion. Et donc là, le taf que fait Solidarité Kanaky, ça nous donne un peu des indices sur probablement comment ça se passe. Et en fait, il est très probable que ce soit pas que pour les Kanaks que le gouvernement français ne paye pas les billets retour, et qu'il y a plein d'autres personnes, une fois déportées en métropole ou déportées à La Réunion dans le cas des prisonniers de Mayotte, qui ne reçoivent aucune aide pour pouvoir rentrer à Mayotte.
Bah, ça a été le cas, par exemple, pour les pirates somaliens, hein. Ouais. Là, ils avaient enfermé pendant plusieurs années, puis après libérés, mais en attente du procès et tout. Et il y avait des situations absolument hallucinantes qu'il y avait, quoi, et tout. Ça reste, même si ça fait partie des pratiques très, très classiques de l'État et tout ça, massivement l'enfermement, enfin la déportation massive de personnes et tout ça. Enfin voilà, la dernière fois quand c'était en Guadeloupe, c'était plutôt une quinzaine de personnes qu'ils avaient. Enfin voilà, ce qui est déjà beaucoup trop. Enfin, hein, de façon voilà. Et puis aussi après, ça se fait sur des cas individuels, notamment Fabrice Borromée, dont on a parlé ces dernières émissions et tout ça, mais qui est vraiment une pratique très 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 classique, voilà, de l'État, et notamment aussi pour les longues peines, quoi. Voilà, et ce qui fait que tu vas être encore plus isolé. Enfin, déjà une longue peine, c'est quelque chose qui t'isole, mais là c'est décuplé, quoi.
C'est ça, que c'est une revendication vraiment super importante, le rapatriement des prisonniers qui le souhaitent, parce que peut-être qu'il y a des prisonniers qui préfèrent finir leur peine en France quand on voit les conditions de détention qui sont absolument atroces à Caen Est, mais qu'en fait ça devrait être le choix des prisonniers, et qu'il faut rapatrier ceux qui le souhaitent, et en payant le putain de billet d'avion, à la place de leur dire vas-y avec ton taf d'oxy, t'as qu'à économiser 1000 balles, ce qui prend pas mal de temps, quoi.
C'est quand même vraiment ouf. Il y a un truc que je me dis que ce serait bien qu'on regarde un peu, parce que là, c'est deux prisons qui sont en train de se construire en ce moment en Kanaky. Il faudrait voir, sur les dernières constructions de tôles là, qui avaient été prévues par les gouvernements successifs Macron, du pont Moretti et tout, voir aussi combien ils veulent en construire dans d'autres colonies et tout ça. Je pense que c'est un taf qu'il faudrait qu'on regarde des trucs.
En tout cas, à Mayotte, ça a été lancé, mais ils ne trouvent pas de terrain. C'est ce qu'on racontait il y a quelques mois.
Donc voilà, et juste, moi, si j'avais une petite critique, c'est pas oublier les Basques aussi qui se sont faits.
En vrai, il y avait trois petits points et j'ai rajouté un et, mais c'est un peu dur dire en lisant à l'antenne.
Mais voilà, parce que quand même, les Basques, enfin voilà, et c'est l'occasion de passer un coucou à Marina et tout, mais donc voilà, c'est quand même vraiment un truc important. Peut-être tu voulais nous parler de la cagnotte, parce que quand même, ça coûte très très cher.
Ouais, bah du coup, c'est l'occasion de rappeler qu'il y avait une cagnotte qui avait ouvert en ligne, que vous pouvez trouver sur le site LOASO, qui s'appelle Justice et Liberté pour Kanaky. Et donc, on remettra le lien sur le site, sur la page de l'émission. Et en fait, c'est important de continuer à alimenter cette cagnotte, parce que là, tout ce truc d'avoir des avocats pour aider les prisonniers à faire des recours contre la déportation, bah en fait, c'est un taf de ouf qui demande des thunes. Et donc, déjà, un avocat, on dit quand même souvent à l'antenne à quel point c'est cher, à quel point c'est galère pour les prisonniers d'y avoir accès. Là, en fait, comme on le disait, c'est vraiment la double peine pour les prisonniers kanaks qui sont loin de chez eux et tout. Et en plus, bah, faut multiplier ça par 70, quoi. Donc, voilà, on remettra le lien de la cagnotte sur le site, mais...
Ouais, peut-être juste pour dire, parce que cette cagnotte, en fait, elle peut sembler élevée pour une fois, et en vrai, ça fait plaisir que les gens qui le peuvent aient pu soutenir à ce point-là. Mais en fait, faut vraiment se rendre compte de la masse de gens qu'il y a, et surtout, en fait, c'est pas les mêmes frais que nous y aurait, en fait, s'il y avait pas, enfin, s'il y avait pas la déportation et tout. Et donc, en fait, c'est vraiment même si le montant est absolument gros, en fait, déjà, il est déjà quasiment tout parti. Et en plus, c'est vraiment dérisoire par rapport à ce dont il y aurait besoin. Sachant que il aussi se poser la question de ses billets de retour et tout. C'est assez simple, billet de retour, il faudrait qu'il y ait 64 000 boules, ce qui est démentiel, quoi. Peut-être aussi pour dire, c'est que c'est quand même pas n'importe, donc il y a les avocats militants et soutiens et tout ça, et voilà, mais vu la masse, ils peuvent pas tous le faire. Et c'est quand même des droits qui sont hyper spécifiques et hyper particuliers, parce que ça engendre, enfin, ça met en branle du droit international et tout. Et en fait, il n'y a pas beaucoup, en fait, d'avocats spécialisés, et encore moins d'avocats militants là-dessus et tout. Et ça coûte très cher. Et en plus, il y a tous les trucs de mandat et tout ça à envoyer, qui eux sont nécessaire pour ce qu'on disait tout à l'heure des coups de téléphone et tout ça, mais donc qui coûte énormément d'argent, quoi.
Ouais, puis manger aussi, hein. Enfin, ouais. Pour pas bouffer la gamelle.
Non, mais que même indépendamment des billets d'avion pour les prisonniers qui sont libérables et qui vont peut-être commencer à sortir et tout, c'est aussi des grosses galères qui s'annoncent, pour trouver un taf, pour trouver un logement et tout, et que ça va être super compliqué quand t'es loin de tes proches et que t'as pas de solidarité locale, parce que juste t'es isolé, c'est des trucs qui sont super compliqués. Et sur le truc des avocats, nous, c'est pas forcément ce sur quoi on insiste le plus à l'antenne, vu qu'on essaye de parler le moins de droits possible, même si ça nous rattrape à plein de moments. C'est que là, on est vraiment sur un.
On parlerait pas de justice. Ah merde! Attends, on s'est encore fait avoir.
C'est Louise qui fait avoir. Ça, quoi.
Ouais, mais. En vrai, c'est quand même un vrai truc, parce que les avocats qui pourraient éventuellement bosser sur des prisonniers déportés, par exemple de Mayotte, de la Réunion, de la Guyane et des Antilles, en fait, c'est quand même encore pas le même droit. C'est encore un truc différent, vu que, comme le raconte le collectif Solidarité Kanaky, là, on est sur des déportations qui, strictement en droit international, sont complètement illégales.
Ouais, et puis, le truc aussi qui est. Nous, par exemple, en tout cas, quand on lutte et tout ça, de plus en plus, maintenant, il y a des légales, des noms de baveux dont on peut avoir à peu près confiance, même si on peut avoir nos réserves et tout. Mais en tout cas, il y a quand même généralement, quand tu fais une manif et tout ça, tu sais qu'il y a des gens et tout ça. Là, quand tu es en Kanaky, c'est pas le cas, en fait. Parce qu'en fait, des avocats, les avocats, ils sont à 95% loyalistes. Et donc, en fait, ils vont défendre l'État français. Et tu vas avoir comme commis d'office un gars qui est contre toi. Parfois même un gars, en fait, qui va être dans la milice le soir et tout. Et donc, c'est vraiment. T'es à 3 contre 1, quoi. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un avocat, quoi. Enfin, c'est un vrai truc, quoi. C'est pas du tout les mêmes trucs qu'on va pouvoir nous. En tout cas, il n'y a pas de parallèle possible à faire entre ce qu'on pourrait, ce qu'on vit et ce qui se passe en Kanaky, quoi. N'hésitez pas de filer de la thune et tout ça, et puis je crois qu'il y a des événements qui sont prévus qui vont être annoncés dans les temps à venir et tout ça, pas non plus hésiter à se pointer au rassemblement et aussi aux soirées de soutien et tout, c'est important. Petit coup de zik.
Quel bail. Ouais, je la détaille.
Ouais, quand même, c'est comment? Je suis dans le bain. 54. 7.
Qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste. Et je paye tout avec une pipe. Et dire que j'ai biscuit, que j'étais à deux d'autres, prendre des années de temps. Mais maintenant, elle veut tout baiser avec moi.
Avec moi.
Sans demander mon avis. Pas du tout les mêmes trucs qu'avant. Avant, c'était la merde, si tu savais. Je suis à Phuket, au bord de la plage. Elle masse le dos, elle masse les pieds. J'ai la Rolex, le marpillé. Sur mon bras droit, sur mon bras gauche. Je suis tout en Nike, pas d'habit luxe. Paire de TM, voiture de luxe. Je suis au volant de la RR. J'ai des étoiles au-dessus de ma tête. Et rien n'a changé, je suis dans le bendo. Sucrade rempli de crachats et de mégots. Je suis dans le caca tout blanc, tout neuf, faire neuf. Je peux même sauter sur mon capot. Je suis dans le truc, sa mère la pute. Je fais plus rentrer qu'un gros 6 de stick. Comme je suis pété, je suis obligé de faire ce qui m'est dans le kit.
On va l'aller du 7, Zifu cause de la paix. Détail 7 jours sur 7. Dis-nous ce qu'on a pas fait. Nickel et PDG. Vive l'argent du raté. Nickel et PDG.
niquer les PDG.
On y va.
Moi j'ai ce que je te raconte. En vrai si tu peux danser que t'es con. C'est pas tout beau tout rose. J'ai pris beaucoup de chutes, perdu beaucoup de potes. Faut pas que tu fasses la pute qui t'apprend des coups. Faut que tu fonds dans le tas. C'est fini l'époque où je me levais tôt. Et dans mon gars moi je peux enlever le toit.
J'ai le syndrome de gire de la tourette.
Gire de la tourette, gire de la tourette.
J'suis capuché devant la tirette.
Méchant.
Elle a pas ses règles, la bouillarde direct. J'éteins la teub à sa mère, j'suis trop méchant. J'sais même plus combien j'ai pu mettre. Les dettes, les dimpes, ne jouent pas au compte. Ta vie, je sais comment la préger. Les keufs me voient, ne montent plus le ton. J'ai 30 fois le salaire de l'OPJ. La beuh est bonne, les prix sont bons. J'ai 2-3 contacts vers la Belgique. Allô, Igo, c'est quoi le boulot? Putain, faire du sale, j'suis encore obligé. L'argent, ça ne s'attend pas. Les négros se flinguent comme à Atlanta. J'ai de la frappe de ouf, celle de Franck Lampard. C'est des balles de douce qui sont sur l'impact. Koba, bouge tes locks. Pendant que je rentre mon glock dans le froc. Oh putain, là je suis mort. Je crois que j'ai mis ma pute en cloque.
Pour balader du 7, si fut qu'au de la paix. Détail 7 jours sur 7. Dis-nous ce qu'on a pas fait. Nickel les PDG. Vive l'argent du raté. Nickel les PDG. Nickel les PDG.
Moi j'ai ce que je te raconte. En vrai si tu peux danser que t'es con. C'est pas tout beau tout rose. J'ai pris beaucoup de tu te perds beaucoup de potes. Faut pas que tu fasses la pute qui t'apprend des coups. Faut que tu fonds dans le tas. C'est fini l'époque où je me levais tôt. Et dans mon gars moi je peux enlever le toit. Moi j'ai ce que je te raconte. En vrai si tu peux danser que t'es con. Moi j'ai ce que je te raconte. En vrai si tu peux danser que t'es con. Moi j'ai ce que je te raconte. En vrai si tu peux danser que t'es con. Moi j'ai ce que je te raconte. En vrai si tu peux danser que t'es con.
Là. Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Désolé, on était en train de commenter ce son. Voilà. C'est là où je vois que je vieillis un petit peu. Donc, c'est.
Il y a 5 ans qu'il est parti.
Bah oui, mais bon, c'est ça. C'est spécial dédicace. Donc voilà. Alors, l'envolée, comme tous les vendredis soirs, 19h-20h30. Vous pouvez nous appeler au 01 40 05 06 10. Ou au 07 53 10 31 95 et nous écrire à l'envolée-fpp 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris. Donc on voulait un peu parler de la situation actuelle. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Peut-être commencer déjà par un truc qui est important de ce qui se passe à l'intérieur. Vraiment, on n'en est pas du tout surpris. Il était sûr que les matons allaient se venger de la manière la plus forte possible. Déjà, ils se vengent quand ils sont humiliés. Donc là, quand il y a eu des décès de leurs collègues, c'est décuplé. Et donc... C'était très à craindre que Mohamed Amra allait vraiment se faire défoncer à l'intérieur. Il a déjà dû déposer une plainte dont on sait qu'elle aura absolument aucun effet. Faut pas se voiler la face. Mais en tout cas, c'est important d'être déjà dès maintenant dans ce rapport-là, en fait, avec l'administration pénitentiaire. On parle pas des avocats et tout ça, mais quand même, son premier baveux, c'était chaud patate quand même. Le gars, il était là, ça va être très très bien, toutes ces conditions de détention absolument affreuses qui sont décrites et tout ça. Il était là, non, mais moi, je m'opposerai pas à ça et tout ça. Je pense que... De toute façon, ça c'est ses choix à lui, on n'a pas à juger tout ça. Mais donc là maintenant, il a pris Benoît David, et c'est important parce qu'en fait ça fait aussi écho aux vengeances qu'a subi Redouane Faïd. Et donc là, on imagine bien que c'est décuplé. Et tout, mais en fait ça fait partie du fonctionnement même de l'administration pénitentiaire. De se venger quand elle a été soit humiliée, soit, soit agressé, je sais pas comment le formuler et tout. Voilà, clairement, c'était à craindre. En tout cas, je pense que c'est important d'avoir ce rapport-là, de rien laisser passer et tout, même si de toute façon, c'est pas ça qui va couper et mettre fin à la violence.
Bah, surtout que je pense, c'est important de rappeler que c'est une pratique systématique de l'administration pénitentiaire et que là en plus c'est quand même vraiment genre dans la presse ils sont en mode limite ils cachent même pas quoi, enfin ils disent il est tombé tout seul quoi, et enfin personne n'y croit, eux non plus, mais en fait c'est assumé que en fait ils se vengent et enfin ils
ouais, non mais pour rappeler les faits en fait, donc ce qui a été décrit dans la presse, c'est que ils sont à trois à monter à rentrer dans sa cellule, donc comme par hasard dans la cellule on sait qu'il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance, voilà, et soi-disant Mohamed Amra n'aurait pas accepté de se baisser ou tout ça, alors que enfin voilà, donc les trois Robocop lui sont tombés dessus et l'ont démonté, et maintenant il a un plâtre quoi.
Et puis que oui, du coup c'est une pratique qui est systématique de l'administration pénitentiaire, et justement c'est ce qu'on avait un peu vu dans le procès de Faïd et avec la famille, avec notamment Rachid qui a participé à l'évasion de son frère et qui avait vraiment pris cher de la part des matons, qui le raconte notamment au procès du coup de l'évasion de Réo, de Faïd, où en fait il raconte que les matons ils se fait distribuer la gamelle la nuit et ils se réveillent un matin, en fait en gros les matons ils ont mis de la merde humaine dans sa gamelle pour manger quoi, et que la nuit dans le noir il a bouffé la merde humaine des matons. Et donc ça, c'est un peu de temps après donc qu'il se fait choper pour l'évasion de Réo. Donc voilà, enfin c'est aussi pour montrer que c'est pas juste un cas isolé, c'est pas Mohamed Amra, c'est comme ça. Enfin c'est ce que tu disais dans le cas de Kider.
Ouais, c'était la même chose après la tentative d'évasion de Fresnes en 2001, où en fait de Christophe Kider, où Cyril, son frère, était venu le chercher en hélico, et quand lui s'est retrouvé en prison après ça, il a pris hyper cher quoi. Il a vraiment pris dans la gueule une grosse vengeance des matons quoi.
Et surtout là, ils viennent, tout le discours de Darmanin se justifie sur les narcotrafiquants, on prend un peu cet exemple de Amra comme le narcotrafiquant qui a essayé de s'évader et qui du coup va venir justifier pour un ensemble de, enfin Avanda et un Condé, des systèmes de détention de plus en plus répressifs, donc dans le cadre de la loi narcotrafique, ces prisons là qui veut construire, qui sont déjà en fait les conditions de détention de Faïd, notamment c'est-à-dire le fait d'avoir des parloirs hygiaphones, de pas pouvoir toucher ses proches en fait. Et en fait, voilà, c'est-à-dire qu'ils prennent le cas d'Amra, mais c'est ce qu'ils font déjà en fait pour les prisonniers qui se sont soustraits à leur pouvoir et se sont barrés quoi. Et ben, ils le font déjà, mais là, c'est du coup systématisé à toute une catégorie de la population qui vont avoir les mêmes conditions de détention que ces mecs-là quoi, qui sont déjà terribles.
Puis il y a un truc qui était un peu hallucinant dans la défense des matons, c'était mais vraiment complètement assumé. C'est-à-dire aussi que du côté du ministère de la Justice et tout ça, ils ont clairement, tous les voyants sont au vert, vous pouvez le défoncer comme vous voulez, quoi. Parce que là, ils disent, non mais il se serait opposé un petit moment. Mais enfin, je veux dire, vu la situation, à aucun moment il mettait en danger quelqu'un ni quoi, il est en face de trois Robocop et tout. C'est juste, il s'est pas mis dans la microseconde où on lui a demandé de se mettre à genoux. Et là-dessus, même les matons, ils ont plus peur de dire ah non non, il nous a il s'est opposé à nous 5 secondes quoi. Et donc là ils assument complètement le truc, et ce qui veut dire aussi l'absence totale, enfin ça veut surtout dire à quel point l'ensemble de l'administration et les ministres et tout ça leur donnent les pleins pouvoirs de violence sur les prisonniers, et qu'ils assument aussi rapidement le truc et sans aucun espèce de non mais en fait c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé et tout, ce qu'ils font d'habitude en fait. Là il n'y a même plus besoin, il n'y a plus personne qui pourra à aucun moment leur à peine taper sur les doigts, parce que c'est quand même ça qui se passe d'habitude quand il y a un truc comme ça, voire pas du tout, voilà. Mais ils se sentent obligés de dire ah non, c'est pas exactement ça et tout. Bah non, là ils assument pleinement. Voilà.
De toute façon, c'est pas à Condin et Condé et Vendin, ouais, c'est dur en ce moment. Putain. Mais en tout cas, c'est pas dans ces deux tôles-là qu'ils vont ralentir là-dessus quoi. Enfin, clairement là, c'est avec sûr, les annonces de Darmanin et le durcissement des conditions dans ces tôles-là, ils ont les coups des franges de toute façon, c'est officiel quoi.
Bon, puis sinon, ça y est, les juges sont cool.
Ouais, il paraît que.
Ah putain, ça y est. Donc voilà.
Mais bah, même en fait, rouge d'ailleurs.
Voilà, on est donc ça y est. Bah, en fait, on a décidé de dissoudre l'envolée. voilà, parce que ça y est, la justice est de gauche.
Et indépendante.
Tout. Et tout. Indépendante.
La fin de l'exploitation de la société de classe d'ailleurs.
C'est ça. Et donc c'est bon. Voilà. Donc bah, on voulait vous remercier pour tous les témoignages que vous nous avez apportés et tout. Bonne continuation à ceux qui sont à l'intérieur, mais vous inquiétez pas, vous allez être libérés très bientôt. Enfin voilà. Non, en vrai, on veut.
Trêve de plaisanterie.
Voilà. C'est ça. Non, mais quoi dire, c'est vraiment assez. En fait, c'est même pas surprenant, parce qu'en fait, on sait qu'il y a une grosse partie de cette gauche de gouvernement et pas que, en fait, qui, ou même en fait, dans le milieu associatif et autres, en fait, qui voient la justice comme étant soit un outil des luttes, soit en fait l'institution à protéger, parce que il y a les trois pouvoirs de l'État, et la justice en fait partie et tout ça, quoi. Et ils sont toujours là à reprocher aux fachos de vouloir faire une justice plus sévère, quoi, et tout. Mais en fait, ça reste un outil que eux ils apprécient et qu'ils utilisent, et en fait, qui leur convient principalement, enfin notamment quand ça leur permet de réprimer des gens qui sont pas de leur classe, pas de leur race et autres. Que là, un ennemi, je sais même pas s'ils emploieraient le terme d'ennemi, mais en tout cas, qu'un ennemi politique se fasse juger, pour eux, ça va complètement dans ce sens-là, que la justice peut être un outil et tout, et qui serve leurs intérêts. Mais faut être clair, c'est que, en fait, c'est. C'est pas cette décision-là en fait qui va enlever l'ensemble des comparutions immédiates qu'il y a tous les jours un peu partout et tout, et donc c'est quand même assez insupportable en fait de voir qu'en fait c'est de cette justice-là dont on va parler tout le temps, enfin tu vois, des procès qui vont durer 3 mois et tout, quoi, alors que la vraie justice, celle qui a un impact sur les gens et qui martyrise les gens, en fait, c'en est une autre, et qui fonctionne et pas de la même manière, où ils ont pas les mêmes baveux qui payent, voilà, qui font, enfin voilà, et ça c'est un peu...
Ouais, ce procès de Marine Le Pen, ça vient juste nous montrer une fois de plus ce que c'est la justice de classe, quoi. Enfin, il n'y a pas plus grand exemple que ça, quoi. Enfin, aujourd'hui, un petit qui va en comparaison immédiate, qui prend 2 ans ferme, il a pas de bracelet. Et encore une fois, on n'est pas là pour dire, ouais, c'est cool le bracelet, c'est absolument pas cool, hein. Mais voilà, c'est juste ça. Et en fait, justement, c'est vraiment du foutage de gueule que aussi tous les... Enfin, que tous les pseudo-gauches, de gens de gauche, là, viennent tout d'un coup nous encenser les juges, en fait, qui, en fait... passent leur vie à enfermer, quoi. Et c'est les mêmes juges qui ont condamné la Marine Le Pen qui passent leur vie à enfermer des gens et à briser des vies aussi derrière. Et du coup, bah ouais, ça rend un peu fou quand... Enfin, c'est tout ce que tu racontes, quoi, sur ce système-là, du coup. Enfin, peut-être que t'avais envie de parler de...
Non, mais c'est juste qu'ils se sont achetés une grosse respectabilité, là, parce que du coup, ouais. Des gens qui, parfois, un petit peu, peuvent un peu quand même dire que la justice, c'est pas ouf, ce qui s'y passe, que c'est quand même une justice de classe, que c'est quand même une justice de race, et bah là, ils sont trop contents de dire, ouais, bah, là, c'est vraiment la preuve que non, on a des juges de la République et tout, enfin, ça nous ressort des discours à des endroits où on n'avait pas non plus tant l'habitude de l'avoir sous cette forme-là, quoi, donc c'est quand même un peu frappant. Et qu'en plus, cette espèce de discours... Enfin là, je sais pas, c'est quand même... Le PS a lancé une pétition de soutien à la justice, quoi. C'est quand même intense, quoi. Et que ça leur permet, en plus, de sortir un truc qui peut pas être décalé... Enfin, qu'on n'a pas envie de décaler au reste, en mode, bah oui, mais en fait, c'est sa faute à Le Pen, elle avait qu'à pas faire des trucs, comme si ça réglait, en fait, la question de la justice, de dire ça. Donc c'est quand même un peu chaud. Et en plus, ça s'inscrit dans un truc un peu international, le camp de la justice contre les méchants fachos. C'est vraiment ça qui est en train de se passer, parce que, vu ce qui se passe aux États-Unis et dans d'autres endroits, question aussi, justice, indépendance des juges et tout, bah en fait du coup t'as méga le beau rôle de dire bah voilà, ça c'est vraiment la preuve que les juges de la République en France, bah ils sont super cool quoi, et qu'en plus les procs ils font un travail vraiment incroyable avec tous ces dossiers méga béton contre des politiciens quoi.
Mais pire que ça, en fait ça leur permet après d'arriver et de, justement là de passer au Sénat, enfin en fait parce que les juges, c'est ce qu'ils disent littéralement, ils disent les juges ils sont trop anti-prison en fait, donc c'est à dire que là du coup vu qu'ils sont trop anti-prison en fait on va passer leurs enfin ça leur permet de justifier leurs offensives ensuite. Et les offensives de Darmanin, qui sont soi-disant du coup plus de gauche que Retailleau. Enfin bref, ça devient un délire, quoi. Et justement, là, ils viennent de passer, là, au Sénat, un projet de loi, enfin, comment on dit ça, ouais, un truc de loi, là, sur la justice pour les mineurs. Et donc, de faire que les mineurs de plus de 15 ans, donc entre 15 et 18 ans, vont pouvoir passer en comparution immédiate. Quand on sait ce que c'est le système des comparutions immédiates aujourd'hui et que c'est juste des machines à envoyer les gens en prison, et notamment des gens qui ont à peine 18 ans, en vrai, la plupart du temps en compas, je sais pas si vous êtes accolés en compas dernièrement, mais c'est quand même beaucoup ça, et ben voilà, ça fait bien flipper, quoi. Et surtout que du coup, toutes leurs justificatives, c'est renforcé par ce discours-là qu'on vient d'expliquer sur la justice, justement, quoi.
Puis juste pour encore le truc d'avant et tout ça, je pense qu'il y a un gros truc qui est extrêmement inquiétant sur le fait de... Mais en fait, qui aussi fait écho à comment se transforme le monde militant, où il devient de plus en plus judiciarisé, quoi. Enfin, tu vas voir, en fait, dans les luttes écolo, en fait, tu vois, les types, en fait, ils font des recours tout le temps, et tu regardes pour la seule victoire. Voilà, et en fait, je le comprends, parce qu'en fait, c'est que très rare, en fait, les victoires qu'il y a en ce moment et tout ça. Mais donc, les rares victoires, elles sont, entre guillemets, obtenues dans les tribunaux. Mais quand tu vois pour l'autoroute, la 69, et tout, voilà, c'est un tribunal qui l'arrête, le truc, et tout ça, et voilà. Mais il y a toute une partie, en fait, du monde militant qui... Enfin, où la justice est vraiment devenue l'outil de la lutte. Et en effet, tu disais aussi sur les luttes féministes et tout ça. Et au moins dans les luttes féministes, il y a une question là-dessus. Voilà, c'est interrogé et tout ça et tout. Ce qui est pas nécessairement le cas dans les. Bah, non, mais si quand même. Enfin, je veux dire, ça veut pas dire que c'est ça qui l'emporte, mais quand même, il y a des bouquins qui sortent qui posent cette question et tout ça. Voilà. Et là, en fait, de penser qu'en fait le droit pourra être un outil contre le fascisme, en fait, mais c'est de la folie dangereuse. Voilà, non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, en fait, il y a un moment, en fait, voilà, et tout le monde, en fait, est rassuré et tout du fait que Marine Le Pen pourra probablement pas se voilà, parce que quand même, ils font une exception là maintenant, ils vont quand même lui permettre de ravoir un appel en moins d'un an, tout ça. Enfin, c'est quand même voilà, elle continue à bénéficier de ses privilèges de bourgeoise, en fait, et tout. Mais donc ça dit aussi un gros truc sur l'état de nos luttes, voilà, et tout, et nous inclus, parce que pour se défendre des décisions de l'administration pénitentiaire, on est obligé de se retourner vers le tribunal administratif, parce que sinon ils nous imposent des trucs contre lesquels on n'a aucun autre moyen de se défendre que la justice, et tout, quoi. Enfin, en tout cas, sur l'interdiction en telle quelle, voilà, il n'y avait pas d'autre. Et en fait, ça dit quelque chose qui est pas très très rassurant, quoi.
Oui, et puis qui va venir légitimer le fait qu'on enferme toujours plus jeunes, et qu'en fait, genre, c'est aussi, je reviens sur la justice des mineurs, j'ai pas du tout une... Mais juste ce truc de leur projet de loi sur la justice des mineurs, c'est aussi de faire que, en fait, ça va concerner les mineurs qui sont déjà, en fait, qui ont déjà été condamnés, ou en fait, qui sont déjà connus de la police, de la justice, et c'est toujours la même chose, c'est toujours la même catégorie de population, c'est toujours la même justice de classe et de race, mais qu'on va imposer à des gens de moins de 18 ans. Donc c'était déjà le cas. Mais là, enfin, qu'on va... les compas, c'est cette machine à envoyer, envoyer des gens en prison qu'on va mettre aux mineurs et qui va encore prendre plus de place. Voilà.
Ouais, et puis bah du coup le dernier truc qu'on voulait un petit peu mentionner, c'est que là il y a une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui veut remettre des peines de prison de moins d'un mois et enlever des possibilités d'aménagement de peine en dessous de 6 mois. Donc peut-être on en reparlera et tout en fonction de comment ce truc il évolue, mais c'est pour redire que là il y a beaucoup de ouin-ouin autour de Le Pen et totalement c'est un événement et tout, mais en fait cette question de l'aménagement, de si tu vas pouvoir avoir un bracelet ou pas, c'est l'incarnation de la justice de classe, quoi, parce qu'il faut remplir des conditions pour pouvoir accéder à ça. Et donc Le Pen elle s'en fout, elle remplit ça, mais qu'en fait pour la plupart des gens c'est pas le cas, quoi.
Bon, on aurait des éternités à faire et tout ça. On n'a pas non plus parlé de la loi contre les voyageurs qui est dans les tuyaux et tout ça. C'est difficile de suivre le rythme en vrai, mais en tout cas, on essaye de continuer à voir tout ça. Il y a des petits événements.
Ouais. Pour respirer un peu, il y a un super concert en soutien au Journal de l'Envolée à Marseille le 3 mai qui arrive. C'est à 21h dans la super salle de la Sale Gueule pour aller taper du pied. Et voilà, n'hésitez pas à venir. C'est dans le cadre des 72 heures contre la prison. Voilà. Oui, je peux peut-être dire aux 8 rues d'Italie.
Donc à Marseille. Ouais. On a des petits coucous. Et là il y a tout le monde qui me regarde à Kémy, ouais. À Redouane, à Fabrice, à Zouzou,
à Pascal,
à Pascal, à Aurélie, à Vivi aussi, merci encore pour ta lettre.
Et un gros coucou à Chito aussi.
Force, courage et détermination, rediffusion mercredi matin à 8h30 et
il n'y a pas d'arrangement.
Je veux le tour de la terre, ce sera vite. Stupéfiant, compressé dans un coffre, une demi-tonne. Et le premier lion y est venu vite. Le crime paye, je suis aveuglé. Je les vois à travers l'abat-jour. Le bien triomphe pas toujours, tu le sauras si on vient t'étrangler. Un tocasse pour la trêve, beaucoup d'amour, mais je fais la guerre. On prend du fer, s'il y a du fer, y'a des affaires, je fais des affaires. Mon égasque a saucissonné, y'a des rappeurs.